La revue de presse internationale, Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
Aux États-Unis, on serait tenté ce matin de reprendre la formule consacrée chez nous. Un président ne devrait pas dire ça.
Ouais, loin de moi l'idée de comparer sur le fond François Hollande et Donald Trump, mais il y a quand même quelque chose de commun dans cette propension maladive des hommes de pouvoir à s'épancher auprès de journalistes dont ils ne peuvent pas ignorer que ces propos seront un jour publiés et joueront en leur défaveur. Or donc, hier soir, le Washington Post publiait les bonnes feuilles du dernier livre à paraître de Bob Woodward. Bob Woodward, légende du journalisme américain depuis le Watergate, pas le plus inoffensif donc, des enquêteurs de la place de Washington. Il avait d'ailleurs déjà publié en septembre 2018 un livre explosif sur les coulisses de l'administration Trump. Et l'on apprenait donc qu'entre décembre et juillet dernier, le président américain avait accordé à Woodward 18 interviews téléphoniques enregistrées avec l'accord de la Maison-Blanche. Des conversations qui forcément, à partir du mois de février, ont commencé à évoquer la menace du nouveau coronavirus. À l'époque, vous vous en souvenez peut-être, Donald Trump minimisait publiquement et constamment la gravité de cette épidémie naissante. Le Washington Post a d'ailleurs compilé 31 extraits de discours prononcés dans les trois premiers mois de l'année.
Are the words about a pandemic at this point?
No, we're not at all, and we have it totally under control.
We think we have it very well under control.
We pretty much shut it down.
I think that's a problem that's going to go away.
Voilà, nous ne sommes pas inquiets, tout est sous contrôle, le virus recule grâce à tout ce qu'on a mis en place, on l'a déjà presque vaincu, ce n'est rien de plus qu'une grippe ou encore, c'est le nouveau canular qu'ont trouvé les démocrates pour tenter de me nuire. Voilà donc ce que déclarait Donald Trump dans les premières semaines de la crise sanitaire et voilà à présent ce qu'il confiait au même moment, début février, à Bob Woodward.
The virus, it goes through air, Bob. You just breathe the air, that's how it's passed. This is deadly stuff.
Ouais, le virus se déplace dans les airs, Bob. C'est comme ça qu'il se transmet, dit Donald Trump. C'est vraiment un virus mortel, bien plus qu'une grosse grippe. Voilà donc la confirmation gravée sur bande de ce qu'on avait entrevu à l'époque, ici même dans cette revue de presse. Donald Trump n'ignorait rien de la gravité de la situation. Il était informé des dernières connaissances scientifiques sur le coronavirus. À ce stade, le 7 février, accuse donc l'édito du New York Times, il savait que des millions d'Américains risquaient de tomber malades, que des milliers allaient mourir. Ils sont près de 200 000 aujourd'hui. Mais Donald Trump s'est vautré pendant des semaines encore dans le mensonge et la dénégation, pendant que son administration se révélait, elle, incapable de mettre en place les mesures qui auraient évité le pire aux États-Unis. Le New York Times enfonce le clou. Trump a menti éhontément de la même manière qu'il reprochait à l'époque à la Chine de le faire à Wuhan. Toujours dans ses conversations téléphoniques avec Bob Woodward, voilà ce que le président déclarait encore à la mi-mars cette fois.
Now it's turning out it's not just old people, Bob.
Exactly.
Young people, to plenty of young people. I wanted to always play it down because I don't want to create a panic.
Voilà, à la fin de cet extrait, j'ai toujours minimisé sciemment la gravité de la situation parce que je voulais éviter la panique, dit encore Donald Trump. Alors bien sûr, c'est avec cette idée-là que se raccroche à laquelle se raccroche désespérément la Maison Blanche pour tenter de répondre aux accusations depuis hier soir. Autant dire que ça ne convainc pas grand monde. Combien de vies auraient pu être sauvées, s'interroge l'édito du Boston Globe. Si l'Amérique n'avait pas un menteur et un incompétent à la Maison-Blanche au bureau ovale. Combien d'Américains, s'interroge encore l'universitaire David Faris dans la revue The Week, ont-ils, en février et mars, continué de voyager, de rendre visite à leurs parents âgés, de se rassembler dans des stades ou des théâtres? Combien sont devenus, sans le savoir, des véhicules du virus qui allaient, dans le pire des cas, tuer certains de leurs proches? La responsabilité du président est écrasante, écrit encore Faris, car n'importe quel dirigeant politique, un tant soit peu aguerri, aurait su trouver les mots pour informer la population sans créer la panique, on l'a bien vu ailleurs dans le monde, et de fustiger la mauvaise foi, l'égoïsme cynique faramineux qu'il a fallu à Donald Trump pour conduire à ce choix du mensonge, un choix dont on commence à peine à mesurer les conséquences tant humaines qu'économiques et sociales sur la population américaine.
On change de pays, on va en Afrique du Sud où un jeune parti de gauche, Camille, un parti de gauche radical, suscite la polémique.
Et ce parti, c'est le EFF, Economical Freedom Fighters, un mouvement dont The Guardian nous apprend qu'il est né en 2013 en Afrique du Sud et centre son action militante et radicale sur le combat anticapitaliste pour l'émancipation économique des populations noires sud-africaines contre toutes les discriminations bien réelles aujourd'hui encore, 25 ans après la fin de l'apartheid. Si l'IFF défraie la chronique cette semaine, c'est pour une série de manifestations, au départ pacifiques, plutôt anodines à vrai dire, devant des pharmacies. Elle visait, raconte The Guardian, la chaîne de magasins Clicks qui commercialise commercialise un soin capillaire pour lequel avait été mise en ligne début septembre une publicité jugée clairement raciste par les militants de l'IFF. On y voyait une photo avec des cheveux afro et la mention « cheveux secs et abîmés ». À côté, une chevelure blonde et cette mention « cheveux normaux et sains ». Depuis, les médias sud-africains, comme le site News24, n'hésitent pas à parler d'un « airgate », un scandale des cheveux, donc dans cette question du rabaissement constant des coiffures afro, des femmes en particulier, cette injonction à les lisser ou à les éclaircir est l'un des chevaux de bataille, nous dit-on, des organisations antiracistes comme l'IFF, qui revendiquent fièrement leur africanité. D'ailleurs, la chaîne de boutique Clix, nous apprend cette fois The South American, a retiré depuis le produit en question de ses étagères et s'est publiquement excusé pour sa campagne de publicité, mais ce qu'en retient une partie de la presse sud-africaine, eh bien ce sont les quelques vitrines brisées et les flacons de shampoing renversés dans les actions qui ont été menées par les activistes de l'IFF. Il y a là une terrifiante glorification de la violence et de la guerre, s'emporte le vice-président d'université Adam Habib dans une tribune outrée publiée par le Daily Maverick. Il y dénonce une cohorte de jeunes gens eux-mêmes racistes et intolérants qui, je cite, en citant Frantz Fanon et Steve Biko, bâtissent par leur action, on parle bien de sit-in devant des pharmaciens, je le rappelle, un projet politique fasciste pour l'Afrique du Sud post-apartheid. C'est ce qu'on appelle donner des cheveux blancs aux vieux éditorialistes de la presse sud-africaine, majoritairement blanche, il faut bien le dire, et ça ne devrait pas déplaire, à vrai dire, aux militants de l'IFF.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale.